VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 31 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebulia et Jean-Roger Billon. Pour commencer, les titres.
Les États-Unis veulent consulter et aider l'Afrique à atténuer les effets économiques de la guerre en Ukraine sur le continent, selon deux diplomates américains hier à Dakar.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'alarme de la résurgence de la rébellion du M23 en RDC après la mort de 8 casques bleus dans le crash de leur hélicoptère mardi.
Au Burundi, la BBC est de nouveau autorisée à émettre dans le pays.
Le président américain Joe Biden s'entretient avec son homologue ukrainien Zelensky.
Moscou douche les espoirs de percer tout en annonçant une trêve à Mariupol pour permettre d'évacuer des civils dans la ville assiégée.
Israël enterre ses morts et craint une nouvelle vague de violence après une attaque qui a fait 5 morts près de Tel Aviv.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute.
Pour l'instant, le journal.
L'administration Biden entend consulter les dirigeants africains sur la réponse diplomatique à l'offensive russe en Ukraine et s'employer à atténuer les effets économiques du conflit sur le continent en coopération avec les institutions internationales ou sous la forme d'aide bilatérale. C'est ce qu'ont indiqué deux diplomates américains mercredi à Dakar en évoquant l'inquiétude suscitée par l'augmentation des prix des carburants ou des céréales.
L'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Union africaine Jessica Lapen et Akuna Cook, une responsable du département d'État pour les affaires africaines, étaient au Sénégal pour des consultations avec notamment M. Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine. Les deux diplomates ont souligné l'importance de cette présidence et de la coopération entre les États-Unis et les pays africains sur la reprise économique post-Covid, l'accès aux vaccins, les récents coups d'État à travers le continent ou la sécurité.
Près de la moitié des pays africains s'étaient abstenus ou n'avaient pas voté lors de deux votes aux Nations Unies sur l'agression russe en Ukraine. Il y a un agresseur évident et une victime évidente et il est important de se tenir aux côtés de la victime, a affirmé hier à Alger le secrétaire d'État américain Antony Blinken.
Le chef de la diplomatie américaine a souligné que l'impact de cette agression russe était ressenti jusque dans le monde arabe, avec notamment la hausse des prix du blé. Il a achevé en Algérie, une alliée de Moscou, une tournée régionale.
Arrivé en provenance du Maroc, le rival régional de l'Algérie, M. Blinken s'est entretenu à Alger avec son homologue Ramtane Lamamra avant d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Il avait participé en début de semaine en Israël dans un kibboutz du désert du Negev à une rencontre inédite avec ses homologues d'Israël et de 4 pays arabes, dont le Maroc.
Donc, je le disais en titre, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est alarmé de la résurgence de la rébellion du M23 en République démocratique du Congo. Son porte-parole l'a déclaré hier, sans l'accuser pour la mort mardi, de 8 casques bleus dans le crash de leur hélicoptère dans l'est de la RDC. Le point avec Lionel Gahima.
Au siège des Nations Unies à New York, le porte-parole Stéphane Dujarric a dit lors de son point de presse que M. Antonio Guterres était profondément préoccupé par la résurgence des activités du M23 sur la zone frontalière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Il a affirmé qu'une enquête de l'ONU était en cours avec l'envoi d'une équipe qui va travailler avec le gouvernement congolais. L'hélicoptère s'est écrasé alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance au-dessus d'une zone du Nord Kivu où des violents combats opposent depuis lundi l'armée aux rebelles du M23. Les forces congolaises ont rapidement accusé les rebelles d'avoir abattu l'appareil. Le M23 a démenti en accusant l'armée d'être responsable du crash. La MONUSCO, qui a retrouvé les débris du Puma, a ramené les corps de ses casques bleus à Goma. Ce crash est survenu alors que l'armée congolaise venait d'accuser le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Cette accusation qui a été catégoriquement démentie par Kigali.
Au Burundi, le Conseil national de la communication régulateur des médias a annoncé mercredi la réouverture de la radio britannique BBC, qui n'était plus autorisée à diffuser dans le pays depuis mai 2018. Les détails avec Mouamadou Mfa.
La conditionnalité que l'on avait posée à la radio BBC a été honorée. Nous sommes arrivés à la décision de rouvrir cette radio, a annoncé la présidente du Conseil national de la communication, Vestine Bougadou, dans une déclaration à la presse. Le CNC avait suspendu la diffusion le 4 mai 2018 de la BBC et de la VOA pour manquement à la loi régissant la presse et à la déontologie. L'instance avait ensuite retiré en mars 2019 son autorisation d'exploitation à la BBC. Cette sanction survenait après la diffusion d'un documentaire évoquant des sites secrets de torture et de détention pour faire taire des opposants au Burundi, ce qui avait été catégoriquement démenti à l'époque par le pouvoir dirigé par Pierre Nkurunziza, décédé en juin 2020. Son successeur, Évariste Ndayishimiye, avait appelé en janvier 2021 le CNC à régler ses différends avec les organes de presse sanctionnés à la suite de la crise. La VOA n'a, elle, pas vu sa suspension levée, mais notre correspondante est à nouveau autorisée à travailler dans le pays.
En Tunisie, le président Kais Saied a annoncé hier la dissolution du Parlement, 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs en juillet 2021, faisant vaciller ainsi l'expérience démocratique dans le pays berceau du printemps arabe.
M. Saied a annoncé sa décision quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidée depuis par le président.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a discuté hier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des capacités militaires supplémentaires pour aider l'armée ukrainienne à défendre son pays. L'appel entre les deux présidents a duré presque une heure, Nathalie Nanitalani.
Selon la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont évoqué la manière dont les États-Unis travaillent jour et nuit pour répondre aux principales demandes faites par l'Ukraine en matière d'aide sécuritaire, ainsi que les efforts persistants fournis par les États-Unis avec leurs alliés pour identifier les capacités supplémentaires pour aider l'armée ukrainienne à défendre son pays. En outre, le président Biden a informé le président Zelensky que Washington entend apporter $500 millions d'aide directe à l'Ukraine. Pour sa part, Volodymyr Zelensky a écrit sur Twitter avoir partagé son analyse de la situation sur le champ de bataille et à la table des négociations entre Kiev et Moscou. La Russie a estimé hier qu'il n'y a pas eu de percée dans les négociations à Istanbul, douchant les espoirs nés des déclarations plus positives mardi de responsables russes. Ni Kiev ni Washington n'ont par ailleurs accordé beaucoup de crédit à des annonces récentes de la Russie promettant de réduire radicalement son activité militaire vers Kiev et Tchernigiv ou de se concentrer sur la seule zone du Donbass dans l'est du pays.
Le président Zelensky a par ailleurs précisé ce jeudi ne pas croire à ses promesses de la Russie et que son armée se préparait à de nouveaux combats dans l'est de l'Ukraine. Moscou, pour sa part, a annoncé aujourd'hui une trêve dans la ville assiégée de Mariupol, que la vice-première ministre ukrainienne a rapidement taxée de manipulation.
Et Washington dit, un haut responsable américain a dit que sous le couvert de l'anonymat, que M. Poutine était mal informé du déroulement de la guerre en Ukraine parce que ses conseillers ont peur de lui révéler les pertes militaires et économiques subies par la Russie.
Et Israël a enterré hier ses morts et commencé à traquer les proches d'un Palestinien, auteur d'une attaque qui a tué 5 personnes près de Tel Aviv, la troisième en une semaine. Le point avec Eric Manirakiza.
La douleur est grande, a écrit le Premier ministre Naftali Bennett sur Twitter, mettant en garde contre une vague de terrorisme meurtrier. Les forces de police ont été placées en état d'alerte maximale. L'armée va déployer des unités supplémentaires en Cisjordanie et ses environs. Ismaël Haniyeh, chef du groupe islamiste Hamas qui dirige la bande de Gaza, a salué une résistance courageuse, légitime et morale pour mettre fin à l'occupation. Le président palestinien Mahmoud Abbas a émis une rare condamnation, déclarant que les meurtres ne feront que conduire à une nouvelle détérioration de la situation. Le roi Abdallah II de Jordanie a condamné la violence sous toutes ses formes en recevant à Amman le président israélien. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, qui vient de terminer une visite en Israël, a condamné cette attaque. Un porte-parole du patron de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que de tels actes de violence ne peuvent jamais être justifiés et doivent être condamnés par tous. En une semaine, 11 personnes ont été tuées dans 3 attaques en Israël.
La Minute Éco, Claire Morin-Dubourg.
Le gouvernement du Niger va bénéficier d'un financement de près de 334 millions de dollars de l'Union européenne pour renforcer la gouvernance, la sécurité et l'éducation. L'objectif est de favoriser le retour à l'école de 2,6 millions d'élèves non scolarisés et d'offrir des possibilités de formation aux jeunes. La priorité sera accordée aux filles et aux femmes des régions de Maradi, Niamey et Agadez. Congo Terminal, le port de Pointe-Noire continue sa modernisation. L'acquisition de 20 nouveaux engins portuaires, composés de 10 tracteurs et 10 remorques, vont permettre d'augmenter les rendements et renforcer la productivité du terminal. Congo Terminal a investi à ce jour plus de 250 milliards de francs CFA pour moderniser les infrastructures et les équipements du terminal à conteneurs. Le Zimbabwe a commencé à redistribuer des terres inexploitées qui avaient été données aux agriculteurs noirs lors des expropriations forcées entreprises par le président Robert Mugabe au début des années 2000. Cette décision visait à réparer les inégalités issues de la colonisation britannique, mais dans les faits, d'anciens combattants de la guerre de libération avaient plus bénéficié de cette redistribution.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalaise pour violence et racisme, annonce l'Égypte. Mardi, les pharaons ont été éliminés par les lions sénégalais de la Teranga dans la course à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, après une séance de tirs au but acharnée et une atmosphère plus qu'effervescente dans les tribunes. Les photos publiées par la fédération montrent les vitres cassées du bus transportant les pharaons, des banderoles d'insultes contre Mohamed Salah et des membres du public faisant des gestes injurieux aux joueurs. La plainte officielle a été déposée auprès de la CAF et de la FIFA, indique la fédération égyptienne. Et justement, pour cette Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, plus de 800 000 billets ont été achetés lors de la première phase de vente ouverte le 19 janvier, annonce la FIFA dans un communiqué. La finale prévue le 18 décembre 2022 est le match qui a suscité le plus d'engouement avec 1,8 million de demandes. Un système de loterie permet aux candidats internationaux d'acheter des billets pour un prix débutant à 69 dollars pour les rencontres de la phase de groupe. Les résidents du Qatar bénéficient de prix préférentiels qui démarrent à 11 dollars. Le prix d'un sésame pour la finale peut atteindre 1 600 dollars. Le ballon de la Coupe du Monde 2022 s'appelle Al-Rihla, qui signifie le voyage, annonce la FIFA sur Twitter. Selon l'instance mondiale du football, Al-Rihla possède les trajectoires les plus rapides jamais enregistrées et contribuera au rythme et à la qualité des matchs. Il succède ainsi à Tersar 18, le ballon de la Coupe du Monde 2018 en Russie, ou à Brazuca, Brésil 2014, ou encore à Djaboulani, Afrique du Sud 2010. Le Qatar a inauguré hier l'un des plus grands musées du sport dans le monde à 2 jours du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde. Le musée olympique et sportif du Qatar, d'une superficie de 19 000 mètres carrés, est situé près de l'un des stades du Mondial 2022, dispose d'une collection de 17 000 objets. Il figure un gant porté par le géant de la boxe Mohamed Ali quand il a remporté l'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960, une Ferrari du champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, et un maillot porté par la légende du football, Pelé. Et puis, pour finir, record des spectateurs dans un stade lors d'un match féminin. Le FC Barcelone s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Ligue des Champions en battant le Real Madrid 5-2 devant 91 553 spectateurs au Camp Nou. Le club catalan a offert des places gratuites à ses socios, entendez, supporters actionnaires, dans ce stade mythique pouvant accueillir 99 000 spectateurs. Paris réussit une journée historique donc, comme l'avait prévu mardi Alexia Putellas, la Ballon d'Or des champions d'Europe en titre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Assédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, des étrangers pratiquent l'orpaillage clandestin dans la région de Kédougou, dans le sud-est du pays. Tout récemment, des Chinois ont été arrêtés dans l'exploitation irrégulière de l'or. Saher Ndao, gouverneur de la région, annonce des mesures pour combattre l'exploitation clandestine de l'or. Un dossier de Namadiara, notre envoyé spécial à Kédougou.
Kédougou est une région aurifère sénégalaise, proche du Mali et de la Guinée. De nombreux jeunes viennent y chercher de l'or. Dans le site du village de Dalafin, à 80 km de Kédougou, un groupement de 188 personnes appelé Tombouluma s'est constitué pour sécuriser ce site. Bemba Damfara est le président du Tombouluma à Dalafin.
C'est pour former quelque chose qui peut nous sécuriser. En français, Tombouluma, cela veut dire sécurité. Ça, c'est notre organisation. Et là où il y a beaucoup de monde, il y a toutes les choses. Il y a beaucoup de bruit, mais pour le moment, on n'a pas eu ces bagarres-là. Ou un accident, on n'a jamais eu ça d'abord. On n'a jamais eu quelqu'un qui est mort, que ce soit dans le trou ou dans la circulation.
Tout étranger désiré d'exploiter l'or doit d'abord se présenter au Tombouluma avant d'intégrer un groupe d'orpailleurs. Le Malien Djigiba Sidibé est dans l'orpaillage depuis 2014 à Dalafin.
C'est un travail d'équipe dont une personne n'en profite pas. Selon la règle de Tombouluma, donc si on a de l'or, si tout le monde doit bénéficier de 250 000 ou 50 000, tous les autres du groupe bénéficient du même montant. Parfois, vous pouvez passer toute l'année sans avoir d'or. Parfois aussi, un seul jour, vous pouvez gagner jusqu'à 500 000. Nous sommes ici. L'État malien ne nous soutient pas, mais l'État sénégalais nous a parfois fourni de l'eau quand nous avions le problème d'eau.
Mais ces Tombouluma qui surveillent les sites d'orpaillage ne détiennent aucun papier administratif, selon le gouverneur de la région de Kédougou, Saher Ndao.
Bon, les Tombouluma, moi, en tant que gouverneur, je ne les reconnais pas. C'est l'État qui garantit la sécurité des personnes et des biens. Maintenant, si les gens sont organisés, qu'ils détiennent les documents administratifs nécessaires et qu'ils ouvrent leur exploitation, mais ces tombouleurs, moi je les ignore, ça n'existe pas. On ne peut pas faire sa propre sécurité dans un État organisé, ça n'existe pas. Et on est en train de voir comment maintenant faire le travail nécessaire pour assainir ce secteur. Certains disent que c'est impossible, d'autres disent que ça va être difficile. Moi je préfère difficile qu'impossible.
Concernant l'exploitation clandestine souvent exercée par des étrangers, le gouverneur promet des mesures fermes pour y mettre un terme.
Donc des gens qui viennent d'ailleurs, et c'est vrai, qui bénéficient d'une complicité des fils de Kédougou, des populations bien sûr locales. Et avec cette complicité, ils s'activent dans des zones très reculées et qui ne sont pas au vu aussi de tout le monde. Et à partir de ce moment, ils font ce qu'on appelle dans l'exploitation clandestine. Il faudrait que les gens aillent vers ce qui est légal, ce qui est possible et ce qui est recommandé. Chaque fois qu'il y a des clandestins, nous allons les traquer et les trouver là où ils sont pour que vraiment les gens cessent de faire de n'importe quoi.
Au début du mois de mars, des Chinois ont été arrêtés dans des terres cultivables près de la ville de Kédougou pour l'exploitation clandestine de l'or. Après leur procès, ils ont été condamnés à 6 mois de prison. Et la proximité avec le Mali fait également craindre que l'exploitation illégale de l'or ne soit utilisée pour financer les activités des djihadistes. Nama Diarra, Adelafi, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Alors que les Togolais attendent des mesures pour atténuer les effets de la vie chère, c'est le contraire qui s'est produit. Leur gouvernement a décidé d'augmenter les prix des produits pétroliers qui ont subi une hausse allant de 20% pour le super sans plomb à 37% pour le pétrole lampant. Colère, désolation et parfois résignation, telles sont les attitudes affichées par la population, nous dit notre correspondant à Lomé Kossi Wousso.
La journée a mal commencé pour Yao, conducteur de taxi-moto, lorsqu'il découvre le nouveau prix affiché à la station d'essence située au Grand Carrefour GTA dans la capitale togolaise. Il n'en croit pas ses yeux.
Nos dirigeants ne pensent pas à nous, sinon ils n'allaient pas procéder à cette augmentation. La situation est déjà critique. Pour tout le monde et à plus forte raison, nous les conducteurs de taxi moto, on n'en peut plus. On pensait qu'ils allaient amoindrir nos souffrances. Avec cette augmentation de prix du carburant, je crois qu'ils veulent signer notre arrêt de mort.
L'essence sans plomb passe de 505 francs CFA à 595 francs. Le gasoil a suivi une augmentation de 80 francs CFA. La plus forte hausse concerne le pétrole lampant qui est vendu désormais à 550 francs CFA contre 400 francs auparavant. Francis Mawena cadre dans une société de la place.
C'est là où je n'ai pas compris. Parce que le pétrole lampant, c'est le pétrole le plus consommé. Vous allez dans les fermes, dans les villages, nos mamans, nos vieillards au village, tout le monde, c'est le pétrole lampant. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on a laissé le gaz butane intact et que c'est le pétrole lampant qu'on a pensé plutôt augmenter le prix. Moi, je n'ai pas compris.
Quelques heures après l'annonce de ces hausses, le gouvernement passe au service après-vente et tente d'expliquer sa décision. Plaidant coupable, le ministre du Commerce justifie cette hausse des prix par la conjoncture internationale. Kodjo Adeje.
Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. S'agissant du carburant, en 2019, le brut était de 18 dollars le baril. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes passés de 18 dollars à 110, voire 120 dollars le baril. Donc une augmentation exponentielle qui a suffisamment fait saigner le budget de l'État.
Le ministre Kodjo Adeje a annoncé que les nouveaux prix sont, eux aussi, subventionnés. Autrement, le super sans plomb se vendrait à plus de 700 francs CFA et le pétrole lampant à 800 francs CFA le litre. Kossi Woussou Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Tchad, la justice ne fonctionne pas. Depuis deux semaines, les magistrats sont en grève pour réclamer plus de sécurité après avoir été régulièrement agressés dans l'exercice de leurs fonctions par les agents de sécurité censés les protéger, selon notre correspondant André Kotmadjingar, qui ajoute que le syndicat des magistrats du Tchad continue d'enregistrer d'autres cas d'agression de ses militants.
Le procureur de la République de Kélo et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la dite localité ont été molestés et humiliés par les éléments de la commission du désarmement, comme en témoigne au micro de VOA Afrique Galia Habassala, l'une des victimes.
Lui, le procureur, là, il était d'ailleurs infirme. Donc on l'a mis à tabac et puis dans la rue, il avait son visage presque rempli du sang. Et moi-même, là, j'ai reçu un coup au niveau de la tête, un coup de côte, ensuite des supports et des coups de bourdin. On m'a cassé mon téléphone. Et comme maintenant, nous sommes dans une sorte de temps. Et ils pensent que ce sont les militaires qui doivent être au-dessus de tout. Nous, on va mourir pour la justice, ça c'est clair.
Le juge de Bokoro et celui de Gorée en déplacement à Mondou ont vu leurs armes arrachées par les agents de sécurité se réclamant toujours de la commission du désarmement alors que la loi confère aux magistrats le port d'armes. Ces actes se sont produits entre dimanche et lundi pendant que les magistrats ferment toutes les juridictions du pays pour exiger plus de sécurité.
Ces événements-là ne sont pas le fait du hasard. Je crois que c'est une idéologie qui est connu et qui est en train de se mettre en œuvre. C'est l'exécution pratiquement. Nous créons d'autres actes plus graves. Dans la mesure où les magistrats ne vont pas se laisser faire, il y aurait éventuellement des meurtres. Ça, je vous le prie. Et l'État seul est responsable.
Donga Arafi, secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad, il interpelle le président du conseil militaire de transition.
Nous n'avons pas de sédition. Il faut que le président de la République, en étant président du conseil supérieur de la magistrature, réagisse promptement. Parce que le pire est à craindre. Et il faut assurément de la force pour exécuter les décisions.
Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, l'emprisonner, sans un cordon sécuritaire à côté. Ce n'est pas possible, monsieur. Le dispositif sécuritaire dont on fait état, il est tant pour la sécurité des magistrats que pour les justiciables eux-mêmes. Parfois, il n'y a pas de cordon sécuritaire. S'il y en a, c'est un agent qu'on affecte sans moyen.
Pour Maître Adam Boukar, président par intérim de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, cette grève donne l'occasion aux policiers et gendarmes qui se transforment en justiciers, faisant subir la rigueur de la loi aux détenus préventifs sans aucune procédure légale. Il dénonce le silence du gouvernement.
Ils arrêtent les gens, ils ne respectent pas la procédure. Le délai de garde à vue n'est pas respecté, parfois leur droit de la défense. Vraiment, nous interpellons le gouvernement pour qu'il trouve des solutions dans les meilleurs délais. La justice est le rempart de l'état de droit. Et si la justice n'existe pas, ça veut dire que l'état de droit est mis à mal. Celui qui rend la justice, il faut qu'il soit protégé. Si c'était une autre revendication, on pourrait comprendre. Maintenant, cette fois-ci-là, ils sont persécutés. Les magistrats sont agressés, molestés, menottés. Donc, dans ces conditions, les gens ne peuvent pas travailler, on les comprend.
Aucune réaction du gouvernement alors que la justice tchadienne ne fonctionne pas depuis 2 semaines. Ce qui, selon les acteurs judiciaires, a des impacts négatifs sur les prévenus de la police judiciaire qui attendent du parquet une décision pour être situé sur leur sort. André Koduma Djingar Njamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a signé un projet de loi fédérale faisant du lynchage un crime de haine, plus de 100 ans après la première proposition d'une telle législation. Le point avec Nanit Talani.
La loi anti-lynchage Emmett Till porte le nom de l'adolescent noir tué après avoir été accusé d'avoir sifflé sur une femme blanche. Son meurtre, dans le Mississippi, à l'été 1955, a été déterminant dans l'ère des droits civiques. Lors de remarques mardi à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a souligné comment les morts violentes de Noirs américains ont été utilisées pour les intimider et les empêcher de voter.
Le lynchage était une pure terreur pour faire respecter le mensonge selon lequel tout le monde n'appartenait pas à l'Amérique, tout le monde n'a pas été créé égal. La terreur pour saper systématiquement les droits civiques durement obtenus. La terreur dans l'obscurité de la nuit, mais aussi en plein jour. Des hommes, des femmes, des enfants innocents pendus à des arbres. Des corps ont été brûlés, noyés et cassés pour avoir essayé de voter, d'aller à l'école, de posséder une entreprise ou empêcher de prêcher l'évangile. De fausses accusations de meurtre, d'incendie et de vol simplement parce qu'ils étaient noirs.
Le référent Wheeler Parker, dernier cousin vivant d'Emmett Till.
Pendant plus de 100 ans, l'Amérique a dit non, et cela en dit long. Maintenant, c'est passé. Un président l'a signé. Kamala Harris et ceux qui, comme Bobby Rush, ont introduit ce texte. Je suis ravi par ce qu'ils ont fait.
La nouvelle loi permet de poursuivre le lynchage comme un crime de haine entraînant la mort ou des lésions corporelles graves. La réaction de Marilyn Safok, professeure à l'Université d'Harvard, ici même à Washington, D.C.
Quand on entend en effet parler de lynchage, ça nous ramène à des années auparavant, surtout à un siècle auparavant. Donc, on a l'impression qu'il s'agit presque d'un anachronisme, mais c'est une loi qui, justement, marque l'histoire des États-Unis. Donc, bien que ça paraisse être un anachronisme, c'est une loi qui, vu l'histoire du pays, est peut-être nécessaire.
Mais c'est qu'une loi qui est votée plus de 100 ans après, est-ce qu'elle pourra servir à quelque chose?
La loi, peut-être qu'elle ne va pas servir à grand-chose, puisqu'on est dans une période qui est quand même complètement différente. Mais c'est une loi qui, vu l'histoire du pays, est nécessaire, parce que cela montre que l'on ne peut pas reculer en arrière.
Le lynchage est une pratique de justice expéditive instaurée par Charles Lynch, un planteur de la Virginie. Par la suite, la pratique s'est répandue aux États-Unis et a souvent été menée par le Ku Klux Klan et des partisans de la suprématie blanche.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Jean-Roger Bion au micro. Lionel Gahima était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.